Chapitre 18. En quittant les vestiaires, j'ai proposé à Obeline d'aller prendre un cocktail au bar. Elle a si vite accepté que je suis prête à parier qu'elle n'attendait que ça. Tant mieux. J'aimerais beaucoup que cela devienne notre petite tradition. Nous sommes descendus en même temps que deux culturistes, plus baraqués que des armoires à glace, de véritables buffets. Quand j'ai discrètement fait remarquer à Obeline qu'on pouvait les prendre pour nos gardes du corps, elle a simplement souri. Si ça se trouve, elle en a pour de vrai. Au rez-de-chaussée, nous avons rattrapé Fabienne, à qui nous avons offert de se joindre à nous, mais qui a poliment décliné. Lisa et Mandy sont déjà installées au fond, à la même table que la dernière fois. Je trouve leur tandem attachant. Elles sont lancées dans une grande conversation. J'ai l'impression qu'elles se sont vraiment trouvées. Nous nous sommes assises. En traversant le hall, Laure nous a fait signe de loin. Margot a retrouvé son amoureux qui l'attendait en lui sautant dans les bras de façon très démonstrative. Rose et Eglantine sont sorties ensemble, mais n'ont rien manifesté à notre intention. Je suis pourtant certaine qu'elles nous ont repérées. Ces deux-là, cela joue perso. Après avoir commandé, je demande à Obeline. Alors, à ton avis, pourquoi Francesca est-elle absente? Les paris sont ouverts. Je m'en moque complètement. Je ne lui souhaite pas de mal, mais j'espère bien qu'elle va revenir le plus tard possible, voire jamais. L'atmosphère est bien plus respirable lorsqu'elle n'est pas là. Avec le nouveau prof, les courbatures vont être d'un autre genre, mais on en aura quand même. C'est sûr. Il présente au moins l'avantage de nous faire travailler dans une dynamique positive. Avec lui, on a l'impression d'accomplir un effort satisfaisant, pas de subir un châtiment. Nous avons discuté de certains exercices, plus exigeants qu'ils n'y paraissent, en évitant toutefois d'évoquer l'effet qu'a produit Mathieu en débarquant. Obeline parle de lui comme d'un intervenant technique, alors qu'il ne peut clairement pas se résumer à cela. N'en est-elle pas consciente? À moins que son éducation ne l'empêche de s'aventurer dans cette analyse-là? Nous avons ensuite abordé ce qui nous était arrivé dans la semaine, dans nos vraies vies. Obeline se livre facilement et en toute transparence, même si son existence ne ressemble pas tout à fait à celle du commun des mortels. Elle organise régulièrement des dîners d'affaires pour son mari. Deux jeunes filles au père s'occupent à plein temps de ses enfants encore jeunes, lorsqu'ils ne sont pas en internat à l'étranger. Trois domestiques assurent le fonctionnement d'une maison dont j'évalue mal la taille, mais qui, sur la foi du nombre de pièces qu'elle évoque en quelques phrases, semble très vaste. Elle a entre autres mentionné une bibliothèque, un petit salon où ils étaient quand même une quinzaine à se réunir, jusqu'à une dépendance dans leur parc où elle ne met jamais les pieds parce qu'elle est trop loin. Elle s'astreint aussi à un genre de discipline que je n'avais pas imaginé possible. Elle tient un fichier informatique pour s'assurer que les relations de son époux ne la rencontrent pas deux fois dans la même robe, haute couture, et ne mangent jamais le même plat à leur table. Elle ne l'explique pas pour étaler son train de vie, mais simplement parce que nous évoquons nos quotidiens et que c'est le sien. Moi, si je devais tenir un tel registre, un tableur serait tout à fait inutile. Un dos de ticket de parking suffirait. En l'écoutant égrener les événements protocolaires qui rythment son emploi du temps, j'ai l'impression de regarder une série anglaise sur ces grandes familles de noblesse qui gèrent essentiellement les problèmes que posent leurs membres. Pour ma part, je lui ai raconté comment un pneu de mon vélo a crevé et décrit la patiente de la 19 qui s'est mise à hurler à la mort quand elle a vu la prothèse de hanche qu'on allait lui poser. Elle a bien ri. Lorsqu'Obeline s'exprime, elle le fait aussi avec ses mains. Elle distille une petite touche très huppée dans chacun de ses gestes. Nous n'appartenons pas du tout au même milieu social, mais elle se comporte sans suffisance ni affectation. Elle m'a posé beaucoup de questions sur mon métier, sur l'implication affective que cela représente. J'ai été touchée qu'elle se souvienne du prénom d'Enzo et me demande des nouvelles de notre relation parfaitement mémorisée comme déclinante. Elle s'est montrée rassurante, m'expliquant que le temps qui passe ne doit jamais être une pression, surtout à mon âge, et que je ne dois surtout pas m'engager si je ne suis pas viscéralement convaincue. Elle m'a surtout donné un point de vue que je ne suis pas prêt d'oublier. Quand tu mesures l'énergie qu'il faut pour durer à deux, tout ce que cela exige au quotidien, si tu n'y crois pas à fond au départ, alors il y a de grandes chances que ça n'aille pas loin. Un doute, c'est une fissure, et ne perds pas de vue qu'au moindre soubresaut, même les plus infimes, peuvent se transformer en faille, voire en gouffre. Il n'existe pas de chemin sans chaos, et les secousses finissent toujours par arriver. Sa façon de présenter les choses m'inspire vraiment. En l'écoutant, les écueils paraissent moins insurmontables. Dans mon entourage, je ne manque pas de gens avec qui discuter, mais avec Obeline, il y a réellement un ingrédient particulier que je ne trouve pas ailleurs. Maintenant que j'y ai goûté, cela me manquerait si j'en étais privée. J'aime le regard à la fois frais et lucide qu'elle porte sur la vie. Grâce à elle, mon existence me paraît plus acidulée. Je me suis demandé ce qui pouvait expliquer cette liberté de ton lors de nos échanges. Nous ne sommes que deux femmes qui partageons une parenthèse. Nous n'avons aucun lien et ne nous connaissons pas. Aucune ne cherche à convaincre l'autre, ni à lui vendre quoi que ce soit. Il est parfois finalement plus facile de se confier à une inconnue. On peut parler franchement, exprimer ce que l'on ressent sans que cela porte à conséquence. Nos discussions ont lieu dans une zone neutre, dépourvue d'arrière-pensée, sans crainte de jugement. Alors que je commence à évoquer Baptiste, elle jette des regards de plus en plus fréquents vers son téléphone. « Je te saoule avec mes histoires ?» lui dis-je. « Tu as certainement rendez-vous. » « Détrompe-toi, converser avec toi me fait beaucoup de bien, mais je sais que le chauffeur m'attend depuis la fin du cours. Je l'estime capable de patienter une petite heure avant d'en rendre compte à Laurent, mon mari. Ensuite, on me demandera pourquoi j'ai été si longue, et l'excuse facile des femmes qui mettent beaucoup de temps à se changer ne suffira plus. » « On te sert à ce point ? N'imagine pas, ma laisse est courte. Encore des obligations ce soir ? Nous avons une conf-call avec les enfants et nous devons aussi valider les menus des prochains dîners. Celui de vendredi s'annonce comme un véritable casse-tête, avec des Indiens et des Japonais à la même table. Quel espace te reste-t-il pour toi dans tout ça ? Elle demeure un instant pensive avant de répondre. Là, avec toi, en parlant d'égal à égal de petites choses qui nous touchent. C'est affligeant, mais je crois que je n'ai rien d'autre. Pourquoi ne pas dire que le cours a duré plus longtemps et te ménager le temps de profiter sans stresser ? Rien ne t'en empêche. Elle laisse échapper un rire bref. Tu as raison. Rien ne m'en empêche. À part moi. J'aurais l'impression de tromper, de trahir. En plus des employés de mon mari, j'aurais ma mauvaise conscience sur le dos. Je suis ainsi. Je n'ose d'ailleurs pas imaginer la réaction de Laurent s'il découvrait mon mensonge. Elle finit son verre. Tu dois me trouver ridicule. Pas du tout. Ma tante prétend que nous sommes tous prisonniers de cages, dont nous forgeons nous-mêmes les barreaux. Elle n'a pas tort. Obeline se lève. Alors que je ne m'y attendais pas du tout, elle se penche et m'embrasse sur la joue. Son geste est simple, familier, naturel. J'en suis touchée. Je la raccompagne jusqu'à la sortie, m'arrêtant avant les portes automatiques. Elle s'en étonne. Tu ne rentres pas chez toi ? Je dois d'abord aller récupérer mon vélo au parking. D'un mouvement chaleureux, elle pose sa main sur mon bras. Merci beaucoup pour le verre. J'attends déjà la semaine prochaine avec impatience. Moi aussi. Elle remonte son col, me fait un clin d'œil et sort. À peine a-t-elle fait quelques pas sur le trottoir qu'une imposante berline noire se range à sa hauteur. Le chauffeur descend et lui ouvre la portière arrière. Elle monte en repliant ses jambes comme une star de cinéma. Ce n'est plus tout à fait l'Obeline que je connais. Les codes ont repris le dessus, son sourire a disparu. La voiture démarre et s'éloigne dans la nuit. Je reste un moment à songer à la façon dont chacune d'entre nous s'en est allée du seul lieu qui nous réunit. Margot dans les bras de son fiancé, Fabienne d'un pas volontaire vers sa famille, Mandy et Lisa ensemble, Obeline en limousine et moi à vélo. Tellement de manières d'avancer, mais toujours avec le même espoir de croiser le bonheur sur sa route.